faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Aujourd'hui, nous allons parler de la méthanisation. Alors que les approvisionnements en gaz se complexifient, que les effets du réchauffement climatique se font sentir, de tels projets fleurissent un peu partout. Alors, pour ou contre la méthanisation ? Comme d'habitude, nous verrons que l'on ne peut pas répondre à une question si simpliste tant le sujet est complexe, souvent mal connu, mal abordé, faute de volonté de creuser ces sujets, ce qui mène les politiques à prendre des décisions non éclairées sur le seul critère de ceux apportés par le lobbying. Mais tout d'abord, faisons un peu d'histoire, ou plutôt de préhistoire, car la méthanisation est avant tout un processus naturel. Contrairement au gaz naturel d'origine fossile, qui est principalement dû à l'action de la chaleur et de la pression sur des éléments organiques, la méthanisation est due à la décomposition des éléments organiques par des micro-organismes, les bactéries notamment. Ce procédé se déroule depuis la nuit des temps au fond des lacs, des marais, là où il y a de la matière organique et une absence d'oxygène. La méthanisation est donc un processus qui permet de produire du méthane, un gaz inflammable constitué d'un atome de carbone entouré de 4 atomes d'hydrogène. Lorsque l'on brûle ce méthane, en présence de l'oxygène de l'air, on obtient de la chaleur et, en sortie, du dioxyde de carbone ainsi que de l'eau. Ces trois composants, l'eau, le dioxyde de carbone et le méthane, sont des gaz à effet de serre conséquents. On entend souvent que le méthane a un pouvoir réchauffant 25 fois plus important que le dioxyde de carbone. L'affirmation est incomplète, il faudrait savoir sur quelle durée on parle. Car si le méthane a effectivement un pouvoir réchauffant intrinsèquement plus grand que celui du dioxyde de carbone, il a l'avantage de se dégrader assez rapidement dans l'atmosphère, alors que le CO2 est très stable et disparaît peu. Sa durée de demi-vie dans l'atmosphère étant de 9 ans contre 300 ans pour le CO2. Les émissions de méthane dans l'atmosphère sont d'ordre naturel, on l'a vu, mais aussi anthropologique. Les émissions dues à nos activités représentent entre 50 et 65% des émissions totales actuelles. Nous émettons donc globalement autant que le processus naturel. On retiendra que les émissions de méthane issues des activités humaines sont responsables d'environ 40% du forçage radiatif effectif des gaz à effet de serre actuels. Aujourd'hui, le gaz est principalement extrait des États-Unis pour 25%, la Russie pour 15%, puis l'Iran pour 6% à égalité avec la Chine. En France, nous ne produisons pas de gaz, ou en tout cas pas significativement. Par contre, nous en consommons. Il vient principalement de Norvège pour 40%, des États-Unis pour 21%, merci le gaz de schiste, et de Russie pour 18%. Hein ? Quoi ? De Russie encore ? D'où l'intérêt peut-être d'être plus autonome et de produire localement, un argument souvent avancé par les promoteurs de la méthanisation. Maintenant que le décor est planté, revenons-en à la méthanisation. Le processus consiste donc à transformer de la matière organique en méthane. La matière organique, c'est par définition la matière qui constitue les êtres vivants. Dans le cas de la méthanisation, l'intérêt de la matière organique consiste au fait qu'elle contienne notamment du carbone et de l'hydrogène, ce qui va être transformé en méthane. Mais il se trouve qu'elle comporte aussi d'autres éléments comme de l'azote, de l'oxygène et bien d'autres métaux ou minéraux qui constituera le résidu en sortie du méthaniseur. Un méthaniseur, c'est donc l'équipement qui permet d'extraire de cette matière organique le méthane en le séparant du reste de la matière. Ce travail de séparation et de recombination du carbone et de l'hydrogène est assuré par une chaîne de processus. Tous ces processus se déroulent en milieu anaérobie, c'est-à-dire sans présence d'oxygène, bref, sans air, comme la putréfaction au fond des marais. Une première étape consiste à hydrolyser la matière, c'est-à-dire à casser les grosses molécules en des molécules élémentaires plus petites. Lipides, polysaccharides, protéines et acides nucléiques deviennent des monosaccharides, acides aminés, acides gras et bases azotées. Cette décomposition est réalisée par des enzymes. C'est souvent l'étape la plus limitante, car la plus lente. En parallèle, et de manière extrêmement rapide, on assiste à une acidogénèse. Des bactéries transforment les acides aminés, les sucres et les graisses en acides organiques élémentaires. Dans ce processus, on obtient également de l'hydrogène et du dioxyde de carbone. Seconde étape, l'acétogénèse. De l'acétate est produite à partir des alcools, des acides organiques et des acides gras produits précédemment. Une partie de l'hydrogène et du dioxyde de carbone présents dans la solution sont également transformés en acétate et en eau. À la fin de cette chaîne, on obtient donc un mélange d'acétate, d'eau et de dioxyde de carbone. Ce qui nous amène à la dernière étape, la méthanogénèse. L'hydrogène et le dioxyde de carbone sont transformés en méthane et en eau. L'acétate est transformé en méthane et en dioxyde de carbone. Vous l'aurez compris, on se retrouve donc à la fin avec du méthane, du dioxyde de carbone et de l'eau. La méthanogénèse est réalisée non pas par des bactéries, mais par des archaea, des organismes unicellulaires, à l'instar des bactéries, mais néanmoins bien différents de ceux-ci. On retrouve ces micro-organismes dans les environnements extrêmes, comme les sources chaudes volcaniques. Le méthane est brûlé dans une turbine qui fait tourner un générateur, qui injecte ainsi de l'électricité dans le réseau et produit localement de la chaleur, notamment pour chauffer le mélange afin d'accélérer le processus de méthanisation. Mais aujourd'hui, ce procédé est de moins en moins utilisé, vu l'abondance d'électricité que nous avons. Le méthane est désormais plutôt séparé des autres gaz, puis compressé, ce qui demande quand même une quantité d'énergie non négligeable avant qu'il soit réinjecté dans le réseau de distribution. Ouf, ça y est, on en a fini avec la chimie. Ou pas, car on vient de se pencher uniquement sur la partie dite utile du méthaniseur, celle qui produit du méthane. Or, dans la mixture qui rentre dans le méthaniseur, la matière organique ne contient pas que du carbone et de l'hydrogène. Que deviennent donc ces éléments ? Commençons par le soufre. Dans le méthaniseur, il se forme de l'hydrogène sulfuré, ce gaz à l'odeur caractéristique d'œuf pourri. On peut en atténuer les émissions par l'ajout d'oxygène en surface de la masse méthanisée. Mais au-delà de l'aspect olfactif, ce gaz est extrêmement toxique, même à faible concentration, soluble dans l'eau, cela donne de l'acide sulfurique. C'est un poison à large spectre. Autre composant de taille dans l'histoire, l'azote. Et là, on va refaire un peu de chimie. On va donc s'intéresser désormais au cycle de l'azote dans le cas de l'agrologie. L'azote est largement disponible dans l'air. Il en constitue les trois quarts. Sauf que les plantes, malgré leur partie aérienne, n'ont pas accès à cet azote qui est très stable. Pourtant, l'azote est vital pour les plantes, présent notamment dans la chlorophylle. Alors, comment les plantes arrivent-elles à se fournir ? Le chemin est un peu tortueux. L'azote présent dans l'air est fixé par des bactéries. Certaines vivent en symbiose sur des racines des plantes. Elles fixent environ les deux tiers de l'azote. D'autres bactéries, asymbiotiques, elles, donc ne vivant pas systématiquement avec des plantes, produisent le reste, les un tiers. Elles sont plutôt présentes dans les déserts ou les milieux gorgés d'eau. Ces bactéries transforment l'azote de l'air en ammonium ou hydroxyde ammoniacal. L'ammoniac est ensuite transformé en nitrate en deux étapes. Deux étapes réalisées par des bactéries de genres différents. Dans un premier temps, l'ammoniac est transformé en nitrite, puis les nitrites en nitrates. Les plantes transforment au final ces nitrates en acides aminés. Vous avez suivi ? Si je dois résumer, les plantes accèdent à l'azote de l'air grâce au travail en chaîne de bactéries qui transforment ce gaz en nitrate, seule forme d'azote assimilable par les plantes. On a donc une chaîne de réaction initiée par des enzymes et des micro-organismes qui transforment l'azote de l'air en azote assimilable par les plantes. Des plantes qui, à leur tour, transforment cet azote en acide aminé pour les cellules, mais aussi en chlorophylle indispensable à la photosynthèse. Une photosynthèse qui permet, avec l'énergie du soleil, d'absorber le dioxyde de carbone de l'air pour le transformer en sucre qui alimente à son tour la plante, mais aussi tous ceux qui vivent en symbiose ou à ses dépens, champignons, vers de terre, oiseaux, ruminants, bactéries. Mais c'est quoi cette histoire de symbiose de plantes ? Ça paraît banal à dire comme ça, mais visiblement ce n'est pas évident pour tout le monde. Les plantes vivent le plus souvent grâce à des échanges. Elles nourrissent de sucre les champignons ou les bactéries du sol, tandis que ceux-ci fournissent à la plante des éléments nutritifs, comme les minéraux et l'eau qu'ils captent dans le sol bien mieux que ne peuvent le faire les racines des plantes. Ne serait-ce que par le simple fait que leur surface d'échange est gigantesque en comparaison des simples racines des plantes. Les champignons multiplient par 1000 la surface de contact entre le sol et les racines des plantes. On ne parle donc pas d'échange à la marge. Les vers de terre, eux, brassent des quantités importantes de terre. Ils apportent des nutriments de la surface vers les profondeurs. On estime qu'un sol sain compte entre 2 et 3 tonnes de vers de terre à l'hectare, soit environ 250 000 individus. Une cohorte de travailleurs chichement payés qui brassent à eux seuls 600 tonnes par an. Mais il faut tout de même les nourrir. Hein? Quoi? Ils ne travaillent pas gratuitement, ces vers de terre, ces bactéries et autres? Il faudrait en plus les nourrir. Et pour ce faire, il faut du carbone? Et en plus, il faudrait les protéger en évitant de les brûler chimiquement avec de l'azote. Et comble de l'histoire, il faudrait éviter de les exposer aux ultraviolets du soleil. En gros, il faudrait éviter de déverser des intrants avec trop de nitrates, il faudrait éviter de labourer, ce qui les expose au rayonnement UV du soleil. Mais c'est là exactement ce que l'agro-industrie nous indique de faire. Fertiliser, exporter le carbone, labourer. Nous avons donc vu que la méthanisation permet d'extraire de la matière organique des atomes de carbone et d'hydrogène pour en faire du méthane et rejette entre autres de l'azote. En parallèle, on assiste à une autre chaîne de réaction qui extrait de l'air l'azote pour le rendre assimilable par les plantes. Sauf que cette chaîne est vivante et est dépendante notamment des apports en carbone pour sa survie. D'autre part, la vie dans le sol permet également aux plantes d'accéder aux nutriments du sol. Un système vivant équilibré permet également à chacun de mieux réagir aux agressions, que ce soit celle du soleil, de la chaleur, de l'humidité, de la sécheresse, des pucerons ou autres. En quelque sorte, on identifie là un premier conflit d'intérêts. Avant de le décrire plus en détail, on peut se pencher sur un autre conflit d'intérêts. Que mettons dans un méthaniseur? Il ne faudrait tout de même pas émettre ce qui pourrait nous nourrir. Jusqu'à peu, les méthaniseurs pouvaient être alimentés par du maïs ou d'autres plantes comestibles. Ces graines ont l'avantage d'être extrêmement concentrées en sucre, en comparaison des lisiers, donc de produire beaucoup de méthane quand elles fermentent. Sauf que justement, si elles contiennent autant d'énergie, c'est la raison pour laquelle on les stocke et qu'on les consomme. Pour éviter que des choix économiques incitent à alimenter les méthaniseurs aux dépens des ventres de la population, la législation limite désormais la quantité de ces apports dans le méthaniseur. Mais d'une part, on n'est pas à l'abri d'un changement législatif qui serait plus favorable à l'économie qu'à la fin. D'autre part, s'il y a une législation, le contrôle reste assez ténu, si ce n'est inexistant. Un risque d'autant plus réel qu'aujourd'hui on entend une autre ineptie dès que les promoteurs de la méthanisation parlent du sujet. Il s'agit de l'utilisation du terme « déchets ». Il paraît que l'on met des déchets dans les méthaniseurs. Quand il s'agit de nos poubelles, cela pourrait s'entendre. Mais quand le méthaniseur ingère des cultures, du foin, du fumier, autrement appelé de l'or brun, est-ce vraiment des déchets? Oui, dans le contexte agro-industriel où le sol n'est qu'un substrat dans lequel on plante une graine et que l'on nourrit à force d'intrants minéraux et de synthèse, confectionnés avec force gaz et pétrole. Bref, dans un contexte d'agriculture hors sol. Sauf que l'on a vu, pour nourrir une plante, pour qu'elle puisse boire, être protégée, il lui faut vivre en équilibre avec d'autres organismes qui dépendent eux-mêmes des éléments nutritifs de la plante, donc le carbone qu'elle puise dans l'air. Ce que certains appellent un déchet n'est ni plus ni moins ce qui permet de s'affranchir du travail de la terre, de s'affranchir des intrants de synthèse et autres fertilisants. Bref, ce sont tout sauf des déchets dans un contexte agro-écologique, de sol vivant, de terre habitable dans le long terme pour de nombreuses générations. Exporter le carbone, priver les sols de cet apport, c'est assurer un déséquilibre de la vie, donc une vulnérabilité des plantations, une dépendance au gaz, au pétrole, aux machines, aux pesticides. Ah tiens, tout ce que la FNSEA et Coordination Rurale et le gouvernement prônent à tour de bras. Tout le contraire de ce que Dame Nature sait faire avec 500 millions d'années d'expérience. Tout ce que ces acteurs ont réussi à détruire en quelques décennies, semant qui plus est la misère sociale au sein des paysans. J'entends déjà le téléphone sonner. Oui, mais on remet le digesta au sol. Sauf que, encore une fois, ce qui est remis au sol a des caractéristiques différentes de ce qui est normalement rapporté. Tout d'abord, il manque notamment le carbone et une partie de l'hydrogène qui ont été exportés via le gazoduc sous forme de méthane. Le soufre a également été exporté car sa présence peut être dangereuse dans les installations. En termes de flore bactériologique, on est en train de déverser des éléments anaérobie, donc qui vivent sans oxygène, là où le sol, lui, vit avec des éléments aérobies qui vivent avec l'oxygène. Un mélange des genres n'est pas des plus simples. Le digestat contient de l'azote. Par rapport à ce qui rentre dans le méthaniseur, cet azote est globalement moins organique et plus minéralisé, donc plus facilement assimilable par les plantes. Ce serait donc un bon engrais selon certains. Sauf que l'azote, sous cette forme minéralisée, dite aussi azote ammoniacal, est plus volatile. Pour l'épandre dans des conditions moins défavorables, il faut donc un épandeur particulier qui évite la dispersion dans l'air en déversant au plus près du sol. Cet azote est également très soluble dans l'eau, tout en étant toxique pour la vie aquatique, ce qui mène à une pollution importante des nappes d'eau par ruissellement et infiltration. Pour limiter cela, sans pour autant l'éviter réellement, il faut absolument déposer l'azote en pleine croissance de la plante pour qu'elle puisse en assimiler le maximum le plus rapidement possible avant la prochaine pluie. Mais vu la durée de la croissance par rapport aux fréquences de pluie, on comprendra que c'est juste moins pire. Pour limiter cela, il faudrait au moins que le digestat soit épandu sur des terres riches en humus encore bien vivantes. Sauf que l'on n'est pas au bout de nos peines. D'une part, les sols de ce genre d'installation sont souvent morts de par l'utilisation qui en est faite. D'autre part, déverser ainsi de l'azote assimilable vient perturber l'équilibre des plantes, n'ayant par exemple plus intérêt à nourrir les organismes qui lui procurent habituellement cet azote, mais qui lui pompent une partie de son énergie en contrepartie. Cela contribue à tuer le sol, et donc à le rendre dépendant d'intrants extérieurs, et donc à fertiliser. Un cercle vicieux qui est en train de s'installer. De plus, les études montrent que déverser des taux anormalement élevés d'ammoniac tue les vers de terre, et un travailleur de moins pour un agriculteur encore plus dépendant des machines et de l'agro-industrie. Alors si en plus on prélève de la matière organique dans un champ ou un pré pour alimenter le méthaniseur et qu'ensuite on déverse le digestat dans un autre pré, on a complètement ouvert le cycle de l'azote. On tue le sol qui nous nourrit non seulement là où on le prélève, mais aussi là où on le déverse. Bref, c'est tout bon pour être forcé à poursuivre l'agro-industrie jusqu'à ce que mort s'en suive. Autre petit inconvénient dans la méthode, l'azote, cela contribue à faire pousser la plante. Si on en met trop, elle grandit trop vite. On assiste à de la turgescence, c'est-à-dire un gonflement des cellules, ce qui entraîne des parois plus fines et augmente les risques d'attaque des ravageurs, que ce soit les champignons ou les pucerons. Pour résumer ce point, apporter soudainement de la nourriture aux plantes, c'est les rendre plus vulnérables, en plus de les avoir rendus plus vulnérables en ayant déséquilibré le milieu. Bref, on est en plein délire de l'agro-industrie. Cultiver des semences malades dans un sol malade en ajoutant tout ce qu'il faut pour les rendre encore plus malades. Et au final, faire croire qu'avec ça, on se portera mieux. Un argument souvent avancé par les promoteurs de la méthanisation, le fait que la méthanisation réduise significativement la quantité de pathogènes et d'antibiotiques. Ce qui semble être vrai. Mais c'est quand même un peu fort de café d'avancer cet argument. Car le souci, c'est avant tout de donner des antibiotiques en masse aux animaux. Le souci des pathogènes, c'est la surexploitation et le déséquilibre des milieux. Un animal, sur un espace assez grand, changera régulièrement de pâture, naturellement, pour éviter d'ingérer de l'herbe souillée par ses propres excréments, et s'évitera ainsi de se réensemencer de parasites. En laissant ses excréments sur des durées plus longues, les pathogènes ne trouvent pas de nouveaux hôtes et finissent par péricliter. Et puis, la dégradation des pathogènes et des antibiotiques est principalement due à la montée en température. Et c'est donc le cas aussi du compostage. Mais c'est quoi, au fait, le compostage ? C'est un mécanisme qui va permettre de transformer la matière organique en humus. C'est un procédé analogue à ce qui se passe naturellement sur le sol des forêts, comme des prairies. Contrairement à la méthanisation, il se fait au contact de l'air. Premier avantage, c'est que bien réalisé, bien aéré, il ne produit pas de méthane, que du CO2, et pas plus que la méthanisation, puisque le méthane est voué à être lui-même brûlé, ce qui produit in fine du CO2. Globalement, il y a donc un impact moindre sur le réchauffement climatique, notamment à court terme. Second avantage, de par son processus de fabrication, son milieu biologique est similaire au milieu biologique du sol, où on le répand, puisque les strates supérieures du sol sont des strates au contact de l'air avec donc une faune, des champignons et des bactéries qui vivent aussi au contact de l'air. Le compost contribue à régénérer l'humus, un humus définitivement perdu ou détruit par l'agro-industrie, par le ravinement associé au labour. Troisième avantage, le compostage permet aussi d'éviter les jus contenant de l'azote assimilable directement par les plantes, de l'azote qui est, rappelons-le, surtout polluant. Une fois épandu, le compost, lui, libérera peu à peu l'azote à un rythme plus adapté à la croissance des plantes. De ce fait, il sera consommé au fur et à mesure, ce qui évitera les pollutions. Revenons-en à notre méthaniseur. Pour l'alimenter, on serait tenté d'y mettre du grain. Mais ça, c'est limité par la législation pour éviter de concurrencer l'alimentation. On serait tenté d'y mettre alors du lisier de bovin, mais ils sont faiblement métagènes. On serait alors poussé à y ajouter des résidus de culture. Sauf que ceux-ci seraient bien mieux utilisés à rester sur place pour nourrir le sol. On serait tenté de produire des intercultures dédiées au méthaniseur. Et cette culture intermédiaire, on l'exporte via le méthaniseur. On l'aura compris, cela s'ajoute à la surexploitation existante. Bref, construire un méthaniseur, cela semble assez scabreux. D'autant plus qu'il s'inscrit dans un modèle agro-industriel. Solagro préconise à minimum de ne pas produire de culture spécifique pour le méthaniseur, dépendre à la bonne période avec le matériel spécifique, dépendre sur un sol déjà riche en matière organique, de le faire à la taille d'une ferme, voire de communaliser entre plusieurs petites exploitations très proches pour éviter des transports trop importants de matière qui viendraient pénaliser le rendement énergétique du système. Ce qui semble assez scabreux dans l'histoire, c'est aussi de partir sur un projet dans l'état actuel des choses. Que se passe-t-il si demain, on finit par se rendre compte enfin que l'élevage intensif exerce une pression trop forte sur les ressources? Que se passe-t-il si l'on décide de réduire le cheptel? Que fait-on du méthaniseur? On l'alimente comment? Il nous coince dans un modèle actuel. De toute manière, pour que la méthanisation soit un minimum envisageable dans des conditions plus favorables s'il en est, il faudrait déjà restaurer la qualité des sols avant toute chose. On en est très loin. Mais alors, la méthanisation, tu es pour ou contre? Question simpliste, d'autant qu'elle occulte la moitié du problème. Quand bien même elle serait vertueuse, si c'est pour en faire des bombes vertes ou alimenter des SUV verts, cela a finalement peu de sens. À noter toutefois une initiative intéressante, celle de Picojoule, une association qui développe des solutions à taille humaine de méthanisation. Consultez leur site, on y trouve les plans d'une installation domestique qui permet de cuire ses aliments à partir de biogaz fabriqué dans un fût de 200-300 litres. Une solution intéressante car elle garantit que l'éthique de l'usage est maîtrisée. Elle prône la responsabilité environnementale de l'utilisateur puisque celui-ci gérera lui-même le prélèvement et l'épandage. Il se sentira donc plus concerné par les potentiels impacts négatifs, ce qui incite aussi à la sobriété.
On veut du green.
Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de pluralisme pour justifier l'invitation de personnes avançant des théories fumeuses, dont le climato-scepticisme ou encore l'extrême droite. Pour exemple, ce grand oral organisé par le Shift Project Paris, qui a interrogé les candidats de tous bords sur des questions d'environnement.
Les centaines de milliers qui ne le sont
tous
pas.
Tous ne sont pas encore.
Évidemment,
je pense que là,
on pourrait s'accorder dessus. On aimerait que tous les bâtiments
qui ont besoin d'être
rénovés le soient.
Visiblement, le débat est inexistant et vire au brouhaha. On peut se questionner sur l'intérêt de créer du débat avec un protagoniste qui ne respecte pas les règles de base comme s'interdire de répandre des vérités alternatives et qui ne source jamais sérieusement ses dires.
N'écoutons pas les Khmer Verts et les prédicateurs à lampe à huile.
T'as lu Le Monde, Le Figaro?
Ouais.
T'as lu L'Équipe, t'as lu Le Métro? Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
Un projet de méthaniseur est en cours à Saint-Péronis, près de Parisot, dans le Tarn-et-Garonne. Un projet assez représentatif de cette industrie fortement poussée par les lobbyistes de l'énergie et de l'agriculture intensive. Un projet qui, malheureusement, embarque dans l'endettement un certain nombre d'agriculteurs, plus ou moins jeunes, et leur territoire, dans un futur figé par une économie du passé, dans un modèle agricole qui, tant sur l'aspect économique qu'agronomique, est obsolète, figé au XIXe siècle. L'économie de Jean-Baptiste Say a collé à l'agronomie du NPK, azote, phosphore, potassium. Un projet mené par un agriculteur qui n'est autre que le président de la Chambre d'agriculture du département, ex-président de la FDSEA, ex-président des JA, ex-président de la MSA, la Mutuelle Agricole, et accessoirement aussi premier adjoint à la mairie. Un capitaine qui ne manque visiblement pas d'appui pour imposer ce projet et le modèle agricole qui l'accompagne. Si cette situation ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours contacter le CLAM, collectif Libre Alerte Méthaniseur, sur les réseaux sociaux ou à l'adresse email clam82160@gmail.com. C'était Les Croissants des Croissants, un magazine d'écologie sans chichi. À la prochaine!
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.